Sahara, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 20 août 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. À l'issue d'un sommet virtuel sur le Mali, les chefs d'État de la CEDEAO ont appelé au rétablissement du président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par des putschistes mardi. Ils vont envoyer immédiatement une délégation à Bamako. Les autorités ivoiriennes ont annoncé la suspension des manifestations jusqu'au 15 septembre. L'opposition prévoyait une marche demain vendredi. Des milliers de personnes ont fui leur maison dans le nord de la Californie, ravagée par des incendies qui progressent rapidement. Convention démocrate, Kamala Harris a accepté sa nomination comme colistière de Joe Biden, qui doit prononcer son discours d'acceptation ce soir. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et des sports. À l'issue d'un sommet virtuel sur le Mali, les chefs d'État de la CEDEAO ont appelé au rétablissement du président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par des putschistes mardi. Ils ont annoncé envoyer immédiatement une délégation à Bamako. Le président en exercice de la conférence des chefs d'État, le Nigérien Issoufou Mamadou.
Nous condamnons avec fermeté les menaces et les pressions ainsi que les manipulations effectuées par les militaires putschistes sur le président Ibrahim Boubacar Keïta pour le contraindre à annoncer une démission contre son gré. Nous condamnons avec la plus grande fermeté la tentative de renversement par des militaires putschistes du gouvernement démocratiquement élu du président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous dénions catégoriquement toute forme de légitimité aux militaires putschistes et exigeons le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel. Nous exigeons la libération immédiate du président Ibrahim Boubacar Keïta et de tous les officiels arrêtés, leur responsabilité sur la sûreté et la sécurité du président Ibrahim Boubacar Keïta et des officiels arrêtés. Nous demandons le rétablissement du président Ibrahim Boubacar Keïta en tant que président de la République, conformément aux dispositions constitutionnelles de son pays. Nous suspendons le Mali de tous les organes de décision de la CEDEAO avec effet immédiat. Nous décidons de la fermeture de toutes les frontières terrestres et aériennes.
C'était le président nigérien Issoufou Mamadou. Le Comité national pour le salut du peuple des putschistes maliens a reçu des personnalités maliennes avant les rencontres prévues vendredi avec des organisations de la société civile, les partis politiques, les leaders religieux, les syndicats. Ils ont aussi fait le point sur les personnes arrêtées. Notre correspondant Kassim Traoré.
Ce matin à Kati, il n'y avait aucune rencontre officielle au programme du président du Comité national pour le salut du peuple. Mais à côté, il a échangé et s'est entretenu en privé avec des personnes ressources, cela pour peaufiner le document sensible en vue des prochaines rencontres avec la classe politique, les organisations de la société civile, les forces vives, les syndicats. Le colonel Assimi Goïta, président du Comité national pour le salut du peuple, se veut serein.
Nous, on n'a aucune ambition politique. Nous sommes des soldats. Là, nous avons d'autres prérogatives, d'autres missions qui nous attendent. Notre objectif, c'est de très vite, à travers les différentes rencontres avec les différents groupes sociopolitiques, transférer rapidement le pouvoir à une transition civile. Et l'État, c'est une continuité et nous sommes tous conscients aujourd'hui de la situation sociopolitique, sécuritaire dont le Mali traverse.
Côté personnes arrêtées, ils sont dans les conditions raisonnables selon les militaires. L'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta a le moral au beau fixe. Il a été aperçu dans les allées de l'école des officiers où il est en détention pour des raisons sécuritaires. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
À propos, la junte qui a renversé le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a déclaré dans la soirée qu'elle va mettre en place un président de transition qui sera un civil ou un militaire selon son porte-parole. On est en contact avec la société civile, les partis d'opposition, la majorité, tout le monde pour essayer de mettre en place la transition, a affirmé le colonel-major Ismaël Ouagué. L'armée nigériane affirme avoir repris le contrôle d'une ville de l'état de Borno où des centaines de personnes ont été prises en otage par des djihadistes mardi. Des combattants présumés du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont envahi Koukaouala mardi près du lac Tchad. Les habitants venaient tout juste de regagner leur foyer après avoir vécu pendant 2 ans dans un camp de déplacés. Les autorités ivoiriennes ont annoncé la suspension des manifestations publiques jusqu'au 15 septembre. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon le gouvernement, la mesure est prise dans le cadre de l'état d'urgence en cours. Il tire les conséquences du bilan humain et matériel des précédentes manifestations et des risques d'ouverture de poches de conflits communautaires. Cette annonce survient près d'une semaine après des manifestations liées à l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat qui ont dégénéré en violence pendant 3 jours, faisant 6 morts, une centaine de blessés et 1500 déplacés internes. Près de 70 personnes ont également été interpellées selon le bilan officiel communiqué mercredi. L'interdiction des manifestations intervient avant une marche des femmes de l'opposition qui devait avoir lieu demain vendredi. Le chef de l'État ivoirien avait annoncé dans un premier temps en mars passer le relais à son premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mais après le décès du candidat du RHDP, Alassane Ouattara s'est ravisé. Il doit être investi samedi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le premier tour de l'élection présidentielle a été fixé au 31 octobre.
La responsable de la société civile en Côte d'Ivoire, Pulcherie Igbalé, qui avait appelé à des manifestations contre un troisième mandat du président Alassane Ouattara, a été inculpée et incarcérée à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, a annoncé son avocat. La présidente d'Alternative citoyenne ivoirienne a été inculpée d'incitation à la révolte et trouble à l'ordre public. En République démocratique du Congo, le patronat dénonce des arrestations et des placements en détention d'entrepreneurs pour des faits liés au paiement de droits et taxes à l'importation. L'on assiste ces derniers temps à une vague d'interpellations des opérateurs économiques qui sont suivis systématiquement de détentions, affirme dans une correspondance Albert Yuma, président de la Fédération des entreprises du Congo. Covid-19 en Afrique, le nombre de personnes quotidiennement testées positives a diminué la semaine dernière, selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. La moyenne était de 10 300 nouveaux cas par jour contre 11 000 la semaine précédente. Par contre, les cas de Covid ont été multipliés par plus de 15 depuis juin en Libye, a averti le CICR. L'UNICEF a appelé les gouvernements africains à favoriser la réouverture des écoles en prenant des mesures sanitaires. La République du Congo rouvrira ses frontières aériennes, ont annoncé les autorités.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La convention démocrate se poursuit. La rencontre est virtuelle pour la première fois à cause du coronavirus. Hier, la sénatrice Kamala Harris a accepté sa nomination comme colistière de Joe Biden, qui doit prononcer son discours d'acceptation ce soir. Le point avec John Lyndon.
La convention démocrate cette année est totalement en ligne et c'est aujourd'hui l'épilogue avec le discours final de Joe Biden, 77 ans, acceptant officiellement de devenir le porte-drapeau des démocrates pour affronter le président sortant Donald Trump le 3 novembre. Kamala Harris a prononcé son discours à Wilmington, la ville où habite Biden, dans l'état du Delaware. L'absence de leadership de Donald Trump a coûté des vies et a déclaré la sénatrice de Californie, 55 ans, lors de son discours d'acceptation pour devenir candidate à la vice-présidence des États-Unis. Le camp démocrate attend qu'elle rassemble les électeurs issus des minorités ethniques qui avait fait défaut à Hillary Clinton en 2016. La Convention nationale républicaine, très largement virtuelle, se tiendra, elle, la semaine prochaine, du 24 au 27 août. M. Trump, qui sera officiellement désigné candidat pour un second mandat, a dit qu'il fera son annonce officielle depuis la Maison-Blanche.
Des milliers de personnes ont fui leur maison mercredi dans le nord de la Californie, ravagée par de multiples incendies qui progressent rapidement. À Vacaville, une ville d'environ 100 000 habitants entre San Francisco et Sacramento, des habitants ont été appelés à fuir en pleine nuit alors que les flammes attisées par des vents violents brûlaient des dizaines de maisons. Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, a été inculpé pour détournement de fonds via un site censé contribuer à la construction du mur à la frontière avec le Mexique. Selon la procureure fédérale de Manhattan, Audrey Strauss, M. Bannon et 3 autres responsables du site We Built the Wall aurait détourné de l'argent de centaines de milliers de donateurs. Donald Trump a affirmé ne rien connaître de ce site de financement et ne pas avoir eu de contact avec lui depuis très longtemps. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Lyndon.
Au Cameroun, Kribi Container Terminal a inauguré la ligne directe Asie-Afrique au port en eau profonde de Kribi qui a accueilli son premier navire. Grâce à la ligne directe Asie-Afrique, les opérateurs économiques du Cameroun, du Tchad et de la Centrafrique vont bénéficier d'un moyen favorable pour leurs marchandises au départ ou à destination de l'Asie. Au Maroc, le projet de loi de finances 2021 vise une croissance économique de 5,4% contre moins 5% en 2020, selon un communiqué du Premier ministre. Selon le site Financial Afrique, cet objectif ne pourra être atteint que dans l'hypothèse d'un prix moyen du gaz butane à $350 américains la tonne et d'une récolte céréalière moyenne de 70 millions de quintaux. Dans sa lettre, le chef du gouvernement préconise une gestion austère et rationnelle des dépenses publiques. Il met également l'accent sur la lutte contre la corruption. Le géant de l'informatique Apple est devenu mercredi la première société américaine à valoir plus de 2000 milliards de dollars en bourse. Le groupe avait déjà été le premier à franchir la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation à Wall Street en 2018. Il a depuis été suivi par Amazon, Microsoft et Alphabet, la maison mère de Google.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Hugo Fabrice Zango, de nouveau sous les projecteurs au meeting de Zekes Ferevar en Hongrie. Le Burkinabé a su classer le triple saut devant ses principaux rivaux, réalisant un saut de 17,43 m, soit la meilleure performance de l'année. Il a devancé l'Américain Christian Teulo, 17,34 m, et le Portugais Pablo Pichardo, 17,28 m. La Béninoise Noélie Yarigo s'est aussi illustrée en remportant le 800 m en 2 minutes. L'athlète de 34 ans a devancé la Polonaise Sofia Ennahwy et la Britannique Laura Muir. Football, Liverpool, des Africains Sadio Mané, Naby Keïta, Joël Matip et Mohamed Salah démarrera la défense de son premier titre en 30 ans en recevant le promu Leeds le samedi 12 septembre. Selon le calendrier publié par la Premier League, ce choc de style entre deux entraîneurs, Jürgen Klopp et Marcelo Bielsa, sera l'affiche d'une première journée disputée à huis clos. Parmi les autres matchs alléchants de la première journée, Tottenham-Everton offrira un autre duel entre technicien réputé José Mourinho et Carlo Ancelotti. Le champion en titre se déplacera à Chelsea lors de la deuxième journée, recevra Arsenal pour la troisième journée, puis jouera le derby à Everton pour la cinquième journée. Ici, en NBA, les playoffs se poursuivent. Dallas et Utah se sont vengés de leur défaite inaugurale face aux Clippers et à Denver. En égalisant à une victoire partout lors du premier tour des playoffs NBA, les Mavs de Dallas ont dominé les Los Angeles Clippers 127 à 114. De son côté, Utah a rétabli l'équilibre avec autorité dans son duel face à Denver 124 à 105. Le champion en titre Toronto du Camerounais Pascal Siakam, 19 points et 6 rebonds, a couru après le score, mais il a fini par prendre le dessus en fin de match 104-99. Contre Brooklyn, les Sixers de Philadelphie se sont inclinés devant Boston 128 à 101, malgré les 34 points et 10 rebonds de leur Camerounais Joel Embiid. Toujours ici, aux États-Unis, le président des Toronto Raptors, Masai Ujiri, d'origine nigériane, a porté plainte devant le tribunal d'Oakland en Californie contre un shérif adjoint. Il l'accuse d'être à l'origine de leur altercation juste après le sacre de son équipe sur le parquet de Golden State en juin 2019. Sur un enregistrement vidéo, on voit Ujiri tenter de se frayer un chemin vers le parquet de l'Oracle Arena pour rejoindre les joueurs des Raptors pour célébrer le titre avec eux. À ce moment-là, le shérif adjoint Alan Strickland l'attrape par sa veste, le repousse et lui crie de reculer alors que le dirigeant des Raptors essaye de lui montrer son laissez-passer. Après un échange de mots, Ujiri, bien que brandissant ses accréditations, est de nouveau repoussé avant de lui-même repousser l'adjoint du shérif en lui martelant qu'il est le président des Raptors.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Mali, trois jours après le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui est toujours entre les mains des putschistes à la garnison militaire de Kati, en banlieue de Bamako, le travail est repris ce jeudi matin, bien avant l'appel des mutins. Mercredi déjà, certains services étaient ouverts, selon notre correspondant sur place, Lamissa Sangaré.
8h ce matin, au quartier général des mutins, la route qui mène à la ville, quelques véhicules enfilent. C'est le contrôle de routine. Les motocyclistes circulent normalement. Des deux côtés de la route, quelques piétons accélèrent la marche pour rejoindre leur travail. La mairie, la préfecture, les services des eaux et forêts, les centres de santé et bien d'autres services sont tous ouverts. Mahamadou Traoré, président du conseil des cercles.
Nous, on n'a pas attendu l'appel des autorités pour être là. Depuis hier, nous sommes là, hier matin. C'est des services publics dont nous avons des usagers qui ont besoin de nous. Donc, il faut les rendre service.
À quelques pas de là, devant les guichets de la Banque de développement agricole, l'affluence est grande. Bourama Touré vient de finir ses opérations bancaires.
Oui, les opérations se continuent normalement. Ça n'a jamais arrêté depuis ce matin. On a pu faire le retrait et le versement.
À la gare des taxis, même effervescence, Seydou Tamboura.
Franchement parlé, on a commencé à travailler normalement, il n'y a pas de problème. On traverse facilement, il n'y a même pas de problème.
Tiamoko Kanté est mécanicien de voiture. Lui et ses camarades ont repris le travail de sitôt ce matin.
On est venu, les gens commencent à sortir petit à petit, les mouvements continuent, tout le monde est à sa préoccupation, les gens continuent à travailler, ça n'a rien empêché.
Pour marquer le début de la normalité en fin d'après-midi hier, les patrons du CNSP avaient rencontré les secrétaires généraux de tous les services publics. Lamissa Sangaré, Kati, pour VOA Afrique.
Les Maliens ont aussi repris le travail suite à l'appel du Comité national pour le salut du peuple, l'organe des putschistes. Mais la reprise a été impossible dans certains services, notamment à la direction du budget du ministère de l'économie et des finances. Certains restaurants, stations d'essence et bâtiments publics ont été saccagés à Bamako, rapporte notre correspondant Kassim Traoré.
Les activités ont repris timidement ce matin à Bamako. Après une nuit calme, l'administration publique a repris sans problème. Mais dans le privé, ça n'a pas été facile, comme dans cette station d'essence.
Après la journée de mardi, comme vous-même vous pouvez le constater, on a eu énormément de dégâts sur cette station, où elle est située dans la zone de Hamdalaï. La station a été totalement saccagée. Vous voyez, on n'a plus de pompes sur la station. Les pompes qui sont là pour servir les clients ne sont plus ici. La boutique qui était là aussi a été totalement saccagée. Donc ça, c'est des pertes, non seulement en matériel, mais des pertes d'emploi.
Au grand marché de Bamako, des boutiques ont été pillées, des magasins vidés de leurs marchandises. Cheikh Oumar Sako, président de commerçants détaillants.
Dans les cas de ce genre, il y a beaucoup de banditisme qui vont se profiter. Donc en ce moment, c'est pour ça, chaque fois, moi, je dis que s'il n'y a pas un apaisement, c'est les opérateurs économiques qui sont les plus perdants. Et nous lançons à l'appel ceux qui ont le contrôle aujourd'hui. Il faut qu'ils se réveillent le marché.
Dans les rues, plusieurs Bamakois vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Les taxis et autres transports en commun étaient dans la circulation.
J'étais venu ici ce matin vers 8h. On a trouvé que la ville est calme. Donc nous, on a regardé partout en voir qu'il n'y a pas de problème.
Le pays a déjà trop souffert avant l'avènement de ce changement. Ce changement est l'aboutissement d'une lutte de longue haleine. Donc, tout le monde doit faire en sorte maintenant de travailler de concert pour qu'il y ait la paix et la concorde entre les Maliens.
Une élection transparente, une élection peut-être pour la première fois depuis 1991 que vraiment on fasse preuve de plus de transparence et que personne ne remette en cause les résultats de ces élections-là.
La reprise des activités a été bénéfique pour certains hommes politiques qui ont donné leur avis sur le coup d'État du 18 août dernier. Dr Bokari Treta, président du RPM.
Les événements auxquels nous avons participé ont été pour nous tragiques. Et c'est pourquoi le rassemblement pour le Mali condamne avec la dernière énergie le coup d'État, l'accession par les voies non constitutionnelles au pouvoir. Dans le propos du Conseil national pour le salut du peuple, nous avons entendu des choses qui peuvent encourager à la réflexion dans la perspective de sortie de crise. Nous avons eu le sentiment qu'il viendrait pour mettre les Maliennes et les Maliens ensemble pour se mettre d'accord encore autour des voies de sortie de crise.
De façon globale, on peut dire que la reprise est effective à Bamako, mais avec un goût d'inachevé pour les noctambules qui doivent rentrer à partir de 21h, cela à cause du couvre-feu décrété par le Comité national pour le salut du peuple. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM. En République démocratique du Congo, les humanitaires font face à un déficit criant de financement alors que les conflits armés et les épidémies continuent à y faire rage. À l'approche de la fin de l'année, seuls 25% des besoins ont été financés dans le pays. 19 millions de personnes sont en insécurité alimentaire et plus de 5 millions sont déplacés selon l'ONU. Eddy Sango a joint à Goma le coordonnateur humanitaire adjoint de Otcha en RDC. C'est Diego Zorila.
C'est un pays où il y a eu une dynamique de beaucoup de conflits dans les provinces de l'Est, surtout avec beaucoup de groupes armés qui génèrent des situations d'insécurité, qui provoquent des déplacements de population. Nous sommes en présence du pays qui a le deuxième plus grand nombre de déplacés au monde, après la Syrie. Nous sommes dans le pays qui a le plus grand nombre de personnes en insécurité alimentaire au monde, après le Yémen. Donc une grande crise humanitaire qui, oui, a été rendue encore plus aiguë par les restrictions imposées par les mesures pour essayer de contenir le Covid.
Quelle est la portée du déficit de financement que vous avez constaté?
En 2020, nous avions demandé 1,8 milliard de dollars pour subvenir aux besoins de plus de 9 millions de personnes. À la lumière de Covid, on a revu ce plan un petit peu à la hausse à 2 milliards de dollars. Et pour le moment, on n'a reçu que 400 millions, c'est-à-dire on a un grand déficit de 80% du financement. Nous ne sommes qu'à 20% du financement. Ceci nous oblige à des choix très très difficiles de vers où est-ce qu'on va diriger notre assistance. Bien sûr, on a des critères de vulnérabilité, mais n'avoir que 20% de l'argent qu'on demande est vraiment, sachant que déjà cet argent est calculé de façon très précise, c'est vraiment une situation très difficile.
Est-ce que vous pensez que les donateurs traditionnels pourrait quand même contribuer, d'autant plus que tous les pays sont touchés par cette pandémie qui est mondiale?
Effectivement, tous les pays ont cette situation avec le Covid qui limite leur capacité de financement, mais on voit bien que dans les pays du Nord, il y a des packages de stimulus économiques qui se chiffrent dans les trillions de dollars. Nous sommes en train de parler d'aides économiques aux entreprises, aux individus, etc., extrêmement importantes, très bienvenues, très nécessaire. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'au Congo, dans une situation où on appelle à la solidarité humaine la plus basique, et lorsque vous voyez le degré de privation auquel sont soumis des individus, des femmes, des enfants, des hommes qui doivent abandonner leurs maisons qui ont été brûlées, leurs champs qui ont été pillés, pour se retrouver dans une situation où il n'y a plus de centre de santé, il n'y a pas d'école, ils marchent pendant des centaines de kilomètres et ils n'ont absolument rien à manger et les enfants meurent à cause de malnutrition. Ce sont des réalités extrêmement poignantes.
Diego Zorila, coordonnateur humanitaire adjoint de OCHA en République démocratique du Congo.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Élections américaines 2020. Les thèmes des armes à feu, du changement climatique et de la pandémie de Covid-19 ont été évoqués hier pendant la troisième soirée de la Convention nationale démocrate virtuelle. La sénatrice de Californie, Kamala Harris, a accepté la nomination à la vice-présidence pour accompagner le candidat Joe Biden qui doit prononcer son discours ce soir. Monsieur Biden fera face au président républicain Donald Trump à la présidentielle du 3 novembre. Un reportage de Mike O'Sullivan, le récit est de John Lyndon.
L'événement virtuel en raison de la pandémie a mis en vedette des sommités du Parti démocrate à travers les États-Unis. C'est une convention non conventionnelle, a déclaré Kerry Washington, actrice de Hollywood, qui a présenté les différents intervenants. Le point culminant hier était sans précédent dans l'histoire des États-Unis. La première femme noire métissée indienne à se présenter sur un ticket présidentiel. Kamala Harris, candidate démocrate à la vice-présidence.
J'accepte votre nomination à la vice-présidence des États-Unis.
Le candidat Joe Biden a été présenté dans des clips vidéo soutenus, entre autres, par Gabby Gifford, une ancienne membre du Congrès qui a failli mourir dans une attaque à l'arme à feu.
L'Amérique a besoin que nous nous exprimions tous, même lorsque vous devez vous battre pour trouver les mots.
Le président sortant Donald Trump a été critiqué pour l'application stricte des lois sur l'immigration, de même que son traitement des demandeurs d'asile et des migrants clandestins. La sénatrice Elizabeth Warren a dénoncé sa gestion de la pandémie de coronavirus.
Aujourd'hui, l'Amérique a le plus de décès au monde à cause du Covid, plus un effondrement économique. Et les deux crises frappent le plus durement les familles noires et latinos.
L'ancien président Barack Obama a déclaré pour sa part que Trump ne respecte pas la diversité de ce pays ou l'importance de son travail.
J'espérais pour le bien de notre pays que Donald Trump pourrait montrer un certain intérêt à prendre son travail au sérieux, qu'il pourrait en venir à sentir le poids du bureau et découvrir une certaine vénération pour la démocratie. Mais il ne l'a jamais fait.
Le président sortant Donald Trump a dit qu'il va accepter sa candidature de la Maison-Blanche. À cause de la pandémie du COVID-19, aucun candidat ne pourra, pendant sa campagne, se permettre les habituels bains de foule ou les chaudes poignées de main avec les électeurs.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
L'USAID est active depuis 30 à 35 ans dans presque tous les pays du Moyen-Orient, du Maroc à l'Irak, a déclaré l'administrateur adjoint pour le Moyen-Orient, Michael Harvey.
It has been a sustained long-term partnership that has really
C'est un partenariat soutenu à long terme qui s'est vraiment concentré sur l'édification des capacités de ces pays pour qu'ils prennent en main leur destinée et bâtissent un avenir qu'ils définiront eux-mêmes. Dans une récente interview, il a noté qu'une bonne partie de l'argent investi par le contribuable américain dans cette région est allé à des projets pas très visibles, mais qui touchent la vie quotidienne de peuples comme les systèmes d'adduction d'eau. Mais le plus important de l'œuvre de l'USAID de ces 30 à 35 dernières années est l'édification des capacités humaines dans les pays du Moyen-Orient. Ainsi, un formidable montant, beaucoup de temps et d'efforts ont été consacrés à la formation des médecins, à la formation des enseignants, à la formation dans les ministères des Finances et du Plomb. Ce dont il est le plus fier, a-t-il dit, est de se rendre sur presque n'importe quel campus universitaire et constater qu'une bonne partie du corps enseignant a été formé aux États-Unis, souvent avec des fonds de l'USAID. Nous avons vu comment des décennies d'investissements humains dans le capital humain sont en train d'avoir un puissant impact sur la modernisation et l'introduction des nouvelles manières de faire les affaires et d'organiser la société dans ces pays. M. Harvey a souligné qu'une bonne partie du monde arabe est en train de connaître une dramatique modernisation. Le défi, a-t-il dit, et que le rythme de modernisation peut être lent que les attentes des jeunes de la région. Et c'est pourquoi nous voyons des jeunes gens sortir dans la rue dans chaque pays, du Maroc à l'Iran. Ils parlent tous de la même chose. Ils veulent un gouvernement soumis à l'imputabilité. Ils veulent qu'il soit honnête. Ils veulent qu'il soit transparent. Ils veulent pouvoir se prononcer sur la manière dont ils sont gouvernés. Ils veulent que leur économie soit modernisée et ouverte. Ils connaissent de quoi a l'air un pays moderne où on peut voyager, investir et lancer une entreprise. C'est un tel avenir qu'ils veulent pour eux-mêmes. Ainsi qu'elle le fait depuis des décennies, l'USAID continuera de soutenir les aspirations des peuples du Moyen-Orient alors qu'ils travaillent avec ardeur à l'édification de cet avenir.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.